L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Alors, voilà, c'est bon, ça marche. Tac, t'as plus qu'à le mettre. C'est très bizarre. Pourquoi ça n'a pas marché? Attends, ton nom de famille, c'est quoi déjà?
Cham-Cham.
Cham-Cham.
Yumna Cham-Cham.
Yumna Cham-Cham. C'est marrant parce que je n'avais pas ton nom de famille en tête.
Il est sympa, non?
Il est simple.
Il est simple et c'est drôle.
Ouais, en français, ouais, je sais pas si c'est drôle dans les autres langues, mais en français, c'est rigolo.
Mademoiselle, à l'aéroport, on m'appelle Mademoiselle Chanchan.
Ah, c'est vrai,
Chanchan. Ouais, quand je suis en retard pour l'avion.
Ah, ouais, c'est clair. Alors, attends, parle un petit peu pour voir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
C'est cool.
C'est bien.
Attends, juste
j'ai la voix peut-être un peu. Tu veux que je parle à haute voix?
Non, 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 il n'y a pas besoin. Moi, j'ai la voix qui porte, en fait, c'est pour ça. Mais tu vois, finalement, ça va, c'est bon. Bon, on y va. Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis avec Yumna Cham-Cham.
Ouais.
Yumna, on s'est rencontrés à New York.
Ouais.
Via Fabrice. Et tu es libanaise.
Oui.
Et tu parles français. Parfaitement.
Ouais.
Et alors, Yumna, tu as créé Live Love Beyrouth.
Ouais.
Qui s'est développé dans 25 villes, etc. Et en fait, donc, on va parler de... Juste pour mémoire, t'as quel âge? T'as
27.
27 ans. Je pense qu'il y a tout un truc sur les Gen Z ou sur les générations Z, sur l'engagement sociétal, etc. Mmh. On va parler communautaire et engagement social.
Cool.
C'est ça, hein?
Ouais.
On peut se dire ça. Est-ce que tu peux... Alors, ce qui est intéressant dans ton profil... Parce que je pense qu'il y a plein de marques qui essaient de comprendre comment ça marche les communautés, comment on fait en sorte que ça se développe, pourquoi ça marche pas en général. Et toi, tu as réussi à le faire pour une cause sociale et qui s'est développée dans 25 pays, donc ça va être hyper intéressant d'en discuter. Tu peux raconter un peu ton histoire? Est-ce que ton histoire, elle est aussi originale? Parce que c'est ce que tu m'as dit, tu es née à la télé, quasiment.
J'ai grandi à la télé, oui.
T'as grandi à la télé. C'est quoi cette histoire de grandir à la télé déjà?
J'ai une famille d'artistes.
Ouais.
Mon oncle, surtout, a écrit plein de chansons et a créé des personnages basés sur mes amis imaginaires,
ouais,
depuis l'âge de 2 ans et des mots que j'arrivais pas à dire. Par exemple, je disais nanar au lieu de canard.
Ouais.
Puis nanar est devenu une chanson, c'est devenu la mascotte de l'émission. Donc, il y a eu, en l'espace de 10 ans, 15 ans, 300 chansons pour enfants qui ont été écrites avec une comédie musicale chaque année.
Wow.
C'est devenu très vite une émission télé, donc à partir de 92, quand j'avais 2 ans. Et j'ai passé tous mes week-ends dans les studios et tous les jours.
Mais c'est pas une petite émission télé, c'est-à-dire que c'est un truc qui est devenu énorme.
Ouais, c'était la première, une des premières émissions pour enfants au Liban, ça s'appelait Mini Studio.
Ouais.
Et c'est devenu la première émission pour enfants au Moyen-Orient. Vu que c'était en français pendant très longtemps, jusqu'en 2002, quand il y a eu. En 98-2002, quand il y a eu les satellites. Et là, ouais, on a broadcast dans tout le monde arabe et il y a eu beaucoup de contenu en arabe et en anglais.
Wow.
Qui a commencé à se développer. Et ça a continué, c'était à l'antenne pendant 25 ans. Maintenant, c'est devenu digital,
ouais,
c'est sur YouTube. Mais je suis passée à la télé Toute ma vie.
Toute ta vie.
Ouais.
Et alors, du coup, tu as fait tes études à Los Angeles.
Oui, à 18 ans.
Une partie, ouais, en tout cas, à la fin.
J'ai quitté Beyrouth à 18 ans.
D'accord.
Et je suis allée à Los Angeles faire des études de design en tout ce qui est transmedia et digital.
Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es dit l'image du Liban et de Beyrouth.
Ou en fait c'était naturel quand je disais que je venais de Beyrouth, que j'ai grandi à Beyrouth, on comprenait pas d'où je venais,
ouais.
On n'arrivait pas à visualiser la ville ou le pays,
ouais.
pour ce qu'il est vraiment.
Uh-huh.
On c'est souvent associé
à la guerre.
Guerre,
ouais, bien sûr.
Ouais. Parfois on me demandait c'est où Beyrouth, surtout en Californie.
C'est clair.
Ils sont pas tous très connectés. Et il y avait ce premier besoin, et puis il y avait aussi un manque d'espoir total au Liban par rapport à mes parents qui vivent encore, qui regardaient les nouvelles tous les soirs, qui sont pas plus jeunes de jour en jour et qui continuent à avoir des bad news. Par rapport à la jeunesse du pays aussi, qui n'est toujours pas... dans une optique de stabilité politique, économique ou sociale, vu la situation dans laquelle toute la région est.
Mmh.
Et c'est là que le besoin de créer Live Love Beyrouth est venu, parce que c'était un manque d'oxygène, et on avait voulu créer, avec mon cofondateur Eddy, une image du pays qui était une image de vie.
Et une image positive,
mais qui reflète la jeunesse et surtout l'espoir et surtout la possibilité de trouver ensemble des solutions basées sur la société civile et non pas parce que personne n'a confiance en son gouvernement.
Ouais.
Donc
c'est intéressant, c'est une étude que tu me montrais en fait aux États-Unis.